Bon, la paracha cette semaine, c'est la paracha de Trouma. Oui, cette fois c'est une paracha. Alors, la paracha commence en disant Vaydaber Adonai Moshe Lemor, Daber el Bene Israël, Vikru li Trouma, Meet Kolish, Asher Idvenu Libo, Tikru et Troumati. Alors, Akosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit: parle aux enfants d'Israël et qu'ils prendront pour moi une donation de chaque homme qui désire, qui a son cœur désire, vous allez prendre ma donation. Alors, Hamid dit que voilà, Akash Bokhu, il va donner l'ordre de construire son Mishkan ou le sanctuaire, ce qu'on va appeler le Mishkan, qui est en vérité le sanctuaire mobile dans le désert. Et il va dire à Moshe Rabbeinu, demande au peuple d'Israël que chacun prend pour moi une donation. On ne dit pas qu'il prend pour moi une donation, on dit qu'il donne. On donne une donation, on ne prend pas une donation, on donne. Pourquoi la Torah dit, vikrouli, et ils prendront pour moi une donation. Il fallait dire, vitnou, ils donneront. Il y a une loi, ils expliquent cela, par il y a une loi dans le traité de Kiddushin. Normalement, quand un homme vient sanctifier une femme, il lui donne une bague sous la choupa. Et lui dit, voilà, tu es sanctifié pour moi avec cette bague. Mais la Gemara se pose une question. Qu'est-ce qui arrive une femme, elle aime tellement un homme, elle est partie chez lui, et c'est elle qui lui a donné la bague. Il dit, fais-moi plaisir, prends cette bague. C'est ça? Est-ce que cette femme est sanctifiée ou pas? La Gemara conclut là-bas, oui, elle est sanctifiée, malgré que normalement, c'est l'homme qui doit donner l'argent ou la bague à la femme. Dans ce cas, tellement elle a supplié, tellement il voulait lui donner, le fait qu'elle lui prend, c'est comme s'il a reçu elle. Des fois, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un d'important, et il accepte, c'est comme si toi, tu avais reçu. La même chose dit Akosh Bokhu. Le fait que vous, Vikru li Trouma, il dit que, en vérité, vous ne me donnez pas, vous prenez. Vous allez prendre. C'est pas que vous donnez, parce que, quand on donne une donation pour le temple, c'est sûr qu'il y avait une bracha extraordinaire que chacun a reçu d'Akosh Baruch Hu. Alors Rashi, le premier Rashi de la paracha est très intéressant. Rashi dit, « Daber ebne Israël, vikrouli teruma, qui prennent pour moi une donation. » Rashi dit, « Li, lishmi, deux mots. Pour moi, en mon nom. » Li, lishmi veut dire, quand on fait une mitzvah à 100% avec une bonne intention, ça s'appelle lishma. Lishma veut dire avec une bonne intention, avec l'intention de ce qu'Akosh Baruch Hu voulait de nous. Parce que des fois, on peut faire une mitzvah avec intérêt. Par exemple, tu donnes la tzedaka avec intérêt. Ou tu poses des tefillim avec intérêt. Quel intérêt? Tu veux que les gens te prennent comme un homme religieux. Ou tu as quelque chose de très important à faire aujourd'hui et tu crois que les tefillim vont t'apporter une bonne chance. Mais tu ne les as pas posés parce qu'Hachem a dit de poser des tefillim, tu les as posés parce que tu avais intérêt personnel là-dedans. N'importe quelle mitzvah peut se faire avec des intérêts. C'est ça? Dit Rashi, n'importe quelle mitzvah. On peut faire une mitzvah et on peut avoir un intérêt. Dit Rashi, quand vous allez prendre une donation pour construire le sanctuaire, l'ilishmi, prenez-la à 100% sans intérêt. L'ishmi, l'ishma, ça veut dire sans intérêt. Mais pourquoi Rashi le dit ici? Toute la Torah, on a 613 mitzvot. On n'a pas rien que la tzedaka fait partie des 613 mitzvot. Mais on a 612 autres. Pourquoi dans la mitzvah de Tefilim, Rashi n'a pas expliqué, la Torah n'a pas dit li, kadesh li kol bechor, il fallait dire Rashi li lishmi. Ou n'importe quelle mitzvah, pourquoi Rashi ne dit pas, il faut le faire sans intérêt. Rien que pour la mitzvah de tzedaka, quand on doit donner la tzedaka, il faut faire li lishmi. Alors on va expliquer, Bezat Hashem, que la mitzvah de Tzedaka est un peu différente de tous les autres mitzvot que nous avons. En quoi? Le Harizal expliquait, quand quelqu'un fait une mitzvah, cette mitzvah est gravée sur son front. Il y avait des kabbalistes, par exemple le Harizal lui-même, il pouvait lire la mitzvah que la personne a faite la journée sur son front. Il prenait un mouchoir, il mettait sur le front de la personne, il lui disait le mitzvot ou la mitzvah qu'il a fait ce jour-là. Mais, la Gemara explique, une mitzvah est gravée sur le front, avéra un péché qu'une personne va commettre le jour même qu'il a fait la mitzvah, le péché efface la mitzvah, le fait de la mitzvah. Alors la mitzvah est gravée, le péché efface. Ça veut dire si quelqu'un il a fait une grande mitzvah, on va lui écrire sur le front, voilà telle mitzvah. 5 minutes, 1 heure, 2 heures plus tard, il a fait un péché, le péché vient, il efface la mitzvah. Dit le Harizal, sauf une mitzvah, la tzedaka. La tzedaka, c'est une mitzvah qui ne s'efface pas. N'importe quel péché que la personne fait, elle reste gravée sur son front toute la journée. Elle reste avec lui toute la journée. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas effaçable. Alors, ça veut dire sur le front de la personne, il y aura quelque chose quand le nom d'Hachem, un nom d'Hachem quelconque qui va être gravé sur son front. Comme dit l'Ora Chaim HaKadosh dit, chaque fois que vous faites une mitzvah, avec l'organe du corps que vous la faites, il y a un nom d'Hachem qui est gravé. Vous faites une mitzvah avec la main, vous posez, quelqu'un pose un nom, pose une film avec la main, il y a le nom d'Hachem est gravé sur la main. Vous dansez pour un Khatan Vekala, le nom d'Hachem est gravé sur le pied. N'importe quelle mitzvah, avec n'importe quel organe qu'on fait avec, avec notre corps, le nom d'Hachem est gravé, mais beaucoup plus fort avec la tzedaka. La tzedaka, c'est tellement fort que c'est quelque chose qui ne s'efface pas durant les 24 heures après cette mitzvah. Alors ça, c'est l'ilishmi, ça veut dire pour mon nom. Aussi, le Shla HaKadosh, un de grands tzadikim, il expliquait que dans la mitzvah de tzedaka, on associe le nom d'Hachem. Comment? La pièce avec laquelle on fait la mitzvah, elle représente la lettre Yud d'Hachem. Le nom d'Hachem, le tétragramme, c'est Yud-Ké, Vav-Ké. La pièce représente la lettre Yud. Elle est petite, c'est Yud. Quand on prend la pièce avec nos cinq doigts, ça représente, le cinq représente le Hé, la lettre Hé d'Hachem. Quand on tend le bras pour donner au pauvre, ça représente la lettre Vav. Et quand le pauvre, il vient, il tend la main, avec le cinq doigts, on lui met dans la paume de la main avec le cinq doigts, c'est la dernière Hé du nom d'Hachem, c'est Yud-Ké, Vav-Ké. Alors quand on fait la tzedaka, il y a le nom d'Hachem qui est associé directement dans cette mitzvah, c'est qu'on ne trouve pas dans des autres mitzvot. On n'a pas cette association de Yud-Ké, Vav-Ké direct. Comment? Oh, très bonne question. Alors qu'est-ce qui arrive? Deux questions qu'on peut poser. Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas un pauvre qui tend la main? Il y a une boîte de tzedaka. Oh, qu'est-ce qui arrive s'il y a une femme? Et un homme doit lui donner. On ne peut pas lui donner à la femme. Il faut lui poser à table, sur la table. Elle doit le prendre. Alors comment on fait? Alors ils disent, ils prévoient ça aussi. Ils disent que la personne qui est dans le cas, il ne pourra pas donner au pauvre dans la main. Il doit le passer de la main droite à la main gauche. Pour compléter le nom d'Hachem. Ça veut dire, j'ai une boîte de tzedaka. Alors je prends de la main droite, Yud, Ké, Vav. Il me manque le Hé parce que la boîte n'a pas de cinq doigts. Alors je passe dans la main gauche. Et c'est de la main gauche avec la main droite. Je reprends encore et je la mets dans la base de tzedaka. Et j'ai accompli le nom d'Hachem. Si c'est une femme, la même chose. Je le passe à la main gauche. Je le prends et là je le pose à table. Et c'est là que la femme peut le prendre. Et de telle manière, on a fait le nom d'Hachem. Il y en a qui disent qu'il faut faire attention. Quand on voit un pauvre et on sait qu'on doit lui donner un tzedaka, il ne faut pas attendre que lui tende la main. Il faut lui donner avant que lui tende la main. Pourquoi? Parce que si nous on donne en premier, là on fait le nom d'Hachem, il vient en ordre. La pièce est Yud, notre cinq doigts c'est le Hé, notre bras qui est tendu c'est le Vav, et lui tend la main c'est le Ké. Mais qu'est-ce qui arrive si lui tend la main en premier? Le nom d'Hachem vient à l'envers. Parce que lui, il a représenté en premier le Hé, la dernière. Et là, tout le nom vient à l'envers. Alors, il faut lui donner avant qu'il lui fait l'action de tendre la main pour recevoir la tzedaka. Donc, maintenant, il dit ici, c'est pour ça que Rashi, elle explique, pourquoi dit Rashi l'ilishmi? C'est pas seulement qu'il faut la faire avec ferveur, il faut la faire avec bonne intention. Ça, c'est fort pour tout le mitzvot. L'ilishmi veut dire que mon nom est associé dans ces mitzvahs de tzedaka d'Hachem. Quand vous faites la tzedaka, il y a le nom d'Hachem qui est dans cette mitzvah. Et pourquoi on dit Veikru li truma, ils prendront pour moi? Là, ça s'explique avec un midrash. Le midrash dit que Rabbi Shimon bar Yochai, un jour de Rosh Hashanah, il a rêvé à propos de ses deux neveux qu'ils doivent perdre 700 pièces d'argent cette année. Dans l'année, ils doivent perdre 700 pièces d'argent. Maintenant, il ne voulait pas leur dire. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il les a convoqués, il les a appelés et leur a dit à ces deux neveux-là, écoutez, je veux que vous soyez deux gabbaïs tzedaka. Vous allez être en charge de la tzedaka, vous collectez, vous ramassez de la tzedaka et vous donnez. Il dit, mais de qui on va collecter? On n'a pas de qui. Il dit, quand il y a une tzedaka qui se présente et vous n'avez pas, il faut que vous le donnez de votre poche. Seulement quoi? Je vous demande d'écrire tout sur papier. Et à la fin de l'année, je vous paye. Tout ce que vous avez payé de votre poche, je vous paye. Alors, ils avaient un peu honte d'aller collecter la tzedaka. Quand il y avait une tzedaka qui est venue, ils donnaient de leur poche. Ils donnaient tzedaka. Et ils vendaient des tissus. Ces deux neveux-là, ils vendaient des tissus. Quelqu'un, il a délaté sur eux comme quoi ils ont fait du contrebande, que leurs tissus ont été volés. Alors le gouvernement, il les a mis en prison. Les Romains, ils les ont mis en prison. Top. Lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écouté qu'ils sont en prison, il est parti leur voir. Alors quand il est parti leur voir en prison, il leur a dit, donnez-moi 10 pièces d'argent, je vous fais sortir de la prison. Il dit, qu'est-ce que tu parles? Pour une contrebande, c'est des milliers de pièces d'argent. Avec 10 pièces d'argent, tu vas nous faire sortir de la prison. Il dit, donnez-moi 10 pièces d'argent, je vous fais sortir de la prison. Ils ont donné 10 pièces d'argent, il les a fait sortir de la prison. Il dit, comment tu as fait avec 10 pièces d'argent nous faire sortir de la prison? Il dit, je l'ai donné au gardien, il vous a libéré. Oui, mais ça prend beaucoup plus que ça. Il dit, je vous ai suivi. Alors il leur a dit la vérité. Il leur a dit, Rosh Hashana, passé, j'ai vu dans mon rêve que vous allez perdre 700 pièces d'argent. Vous devez perdre 700 pièces d'argent. Qu'est-ce que je dis? Au lieu que vous le perdez, donnez-le à la tzedaka. C'est pour ça que je vous ai nommé comme gabaim, comme des gens de collecteurs de tzedaka. Et je vous ai dit que quand vous n'avez pas collecté, donnez-le de votre poche. J'ai fait un calcul, jusqu'à date, vous avez donné 690 pièces d'argent. Il manquait 10, parce qu'il fallait que vous perdiez 700 pièces d'argent. Avec 10, je vous ai libéré. Pour dire que l'argent que vous allez perdre est déjà décrété au ciel. Alors, il peut se perdre de deux manières. Il peut se perdre d'aller dans des bêtises. Tu payes un ticket, un ticket de stationnement ou n'importe quoi. Ou tu peux le donner à la tzedaka. Parce que l'argent, de toute façon, il doit partir de tout. L'idée, c'est qu'il ne reste pas chez toi. Alors, c'est toi qui décides quoi faire. Tu ne donnes pas la tzedaka, voilà, il va aller dans un... Parce qu'il y a une somme qui a été décrétée. Et si tu donnes plus, Akadosh Baruch Hu doit te le rembourser. Parce qu'il a décidé aussi combien tu dois gagner par année. Alors, il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai vu cet argent qui va partir, alors je préférais qu'il parle à Tzedaka au lieu qu'il parle au gardien de prison. Si vous n'aurez pas fait cette Tzedaka, vous aurez payé aujourd'hui 700 pièces d'argent. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le nom d'Hachem est associé dans la mitzvah Tzedaka. On voit qu'Hachem a demandé, quand on fait la mitzvah Tzedaka, on le fait pour son nom, parce qu'il y a son nom qui est impliqué. Et ils disent que sur tout l'argent, toutes les donations qui ont été faites pour le temple, apparemment il y avait le nom d'Hachem qui a été imprégné sur chaque objet. La Torah, qu'est-ce qu'elle demande à donner? Zahav, de l'or, kesef, de l'argent, nechoshet, du cuivre. C'est les trois éléments. Après, il a demandé des tissus d'écarlate, il a demandé des peaux des animaux. Mais apparemment, chaque objet qui a été donné, il y avait le nom d'Hachem qui a été imprégné sur l'objet. Maintenant, qui c'est qui peut voir? Alors, dans notre temps, il y a 50 ans, 60 ans, il y avait des tzadikim qui étaient capables de voir sur un objet. Comment, ça veut dire, qu'est-ce qu'il est cet objet? Je vous donne un exemple. J'ai vu qu'il y avait un tzaddik qui s'appelait le Maharil Diskin. Le Maharil Diskin, un jour, on lui a servi dans un verre, de l'eau, dans un verre. Il a dit, moi je ne bois pas de ce verre. On a dit, pourquoi? On a dit, parce que ce verre-là n'était pas en mikvé. On a dit, comment vous savez? Il a dit, je le vois. Je le vois sur le verre. Alors ils ont commencé à demander, effectivement, ils ont trouvé que ce verre-là n'était pas en mikvé. Mais comment il l'a vu? Il a dit, il y a un nom d'Hachem qui est sur le verre. Ça veut dire qu'il y avait des tzadikim qui étaient capables de voir. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais il y a des tzadikim qui sont capables. J'ai vu une autre histoire. Il y a un tzadik qu'un matin, dans la prière, il est venu chez quelqu'un. Il lui dit, tes téfilim, ils ne sont pas cachers. Il dit, comment vous voyez ça? Il faut ouvrir, il faut... Il dit, moi je te dis que ce n'est pas cacher. Top, ça lui est rentré dans la tête, il est parti le vérifier, ce n'était pas cacher. Alors quand il a rencontré la prochaine fois, il dit, comment tu savais? Il dit, je l'ai vu. Sous ton téfilim, c'était pas, le nom d'Hachem n'était pas clair. Ça n'a pas éclairé. Alors, des fois, quand on fait des mitzvot, même avec les objets avec lesquels on fait des mitzvot, il y a le nom d'Hachem qui est clair. Mais ça prend de grandes tzadikim pour qu'ils puissent voir. C'est pas donné à tout le monde. Mais pour dire que le nom, il existe là-bas. Mais dans le Mishkan, dans le temple, il y avait aussi un tzadik qui le savait. Il s'appelait Betzalel. Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre de construire le sanctuaire. Mais il a donné cet ordre, il l'a transmis au peuple d'Israël. Mais il y avait bien quelqu'un qui devrait être en charge de tout ce travail. Ce quelqu'un s'appelait Betzalel ben Uri ben Hur. Betzalel, fils d'Uri, fils d'Hur. Ce Betzalel, on disait de lui qu'il savait dépenser dans l'or, l'argent et le cuivre. Qu'est-ce que ça veut dire dépenser? Alors on disait de lui, quand il prenait un morceau d'or, il pouvait penser et regarder le morceau. Quelle était la pensée de la personne qui a fait cette donation? Est-ce qu'il a fait avec intérêt? Ou est-ce qu'il a fait vraiment avec innocence pour la mitzvah? Et selon cela, il distribuait l'or, l'argent et le cuivre à leur place. Qui veut dire? L'or, Il y avait plusieurs endroits qui avaient de l'or. L'arche sainte, elle avait de l'or. La table, elle avait de l'or. L'autel était en cuivre. Le socle qui tenait le Mishkan, ils étaient en cuivre, en argent, c'est ça? Maintenant, quand il donnait aux gens, aux travailleurs de travailler, il regardait la pièce qui était devant lui, il dit, voilà, ça c'était une donation d'or à 100%. Moi, je veux qu'elle va à l'arche sainte, parce que l'arche sainte, c'est l'ustensile le plus sanctifié dans toute la bâtie, tout le sanctuaire. Alors, il donnait à ça. Quand quelqu'un donnait avec une intention moins que ça, hein, il disait, ok, que ça va à la table en or. Quand quelqu'un faisait moins que ça, avait une intention beaucoup moins que ça, alors on fasse un ustensile, une fourchette, quelque chose pour qui va servir plus tard. Ça veut dire que Betzalel, il regardait une pièce en argent, en or, en cuivre, et il était capable de voir le nom d'Hachem imprégné et savoir quelle était l'intention de monsieur ou de la madame quand ils ont donné l'ustensile, quelle était leur pensée. C'est comme ça qu'ils distribuaient à chacun pour faire le Mishkan. Maintenant, on dit que dans le Mishkan, le but du Mishkan, c'était pas l'or, ni l'argent, ni le cuivre. Le Mishkan, c'était quelque chose d'autre. C'était quoi? Le principal du Mishkan, c'était le Hesed. C'était la bonté qui a été donnée. Parce que quand je vous dis, moi, j'ai pas besoin d'une bâtisse en argent, ou en or, ou en cuivre, ça me donne rien. C'est l'amour qu'il y a entre le peuple juif. C'est ça qui m'est plus important de tout. C'est ça? C'est pour ça qu'on dit dans Shir HaShirim, qui a écrit le roi Salomon, et c'est écrit, Amudav Asachesef. Le pilier du temple, du sanctuaire, justement, même il les a fait en argent. Refidato Zahav, il a couvert le temple en or. Mais l'intérieur, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il était à l'intérieur? Vetocho Ratsuf Ahava. L'intérieur était plein d'amour. D'amour énorme avec son prochain. On dit qu'on imprégnait le nom d'Hachem. On imprégnait le nom d'Hachem quand on faisait le comment on appelle ça? Le Mishkan. Alors regardez, vous savez qu'il y a une coutume. Il y a une coutume que quand on boit un verre de l'Echaim. Deux juifs, ils boivent un verre de l'Echaim, c'est ça? Alors ils coignent le deux verres, c'est ça? Alors on dit qu'il y a le nom d'Hachem qui est associé. Comment le nom d'Hachem? Avant, il y a 200 ou 300 ans, si vous allez voir des anciens livres de Chumash, par exemple, de livres d'études, pas livres de Torah, livres d'études, vous allez voir le nom d'Hachem, le tétragramme est écrit différemment. Le tétragramme, au lieu d'écrire Yud Ke Vav Ke, comme il se trouve dans le livre d'aujourd'hui, c'était écrit Yud, Yud. Yud, Yud, et on savait que ça représente Hachem. Pourquoi? Malheureusement, il y avait de Goïm qui brûlaient des livres. Il y avait pas deux endroits pour faire la Geniza. Alors beaucoup de noms, de livres avec de noms sacrés étaient éparpillés par terre, ils étaient brûlés. Vous allez vous imaginer, il y avait même de Goïm qui recyclaient le papier de ce livre-là. Quand un livre a été mis dans la Geniza, il déterrait dans le cimetière, il déterrait l'endroit, et il prenait tout le livre qu'il mettait dans la Geniza et recyclait. Recycler, c'est brûler, de refaire de nouveau. À cause que le nom d'Hachem était comme ça profané, d'une telle manière, ils ont décidé qu'on n'écrit plus le nom d'Hachem dans des livres d'études. Alors la représentation était Yud, Yud. Plus tard, c'est devenu mieux, c'est là qu'ils ont retourné à écrire le nom d'Hachem qui est Yud, Ke, Vav, Ke. Mais pourquoi Yud, Yud? D'où ce qu'ils ont trouvé ce Yud, Yud? Qu'est-ce que représente le mot Yud, la lettre Yud? Yud, c'est Yehudi, un juif. Yud, Yud, c'est deux juifs. Quand il y a un amour entre deux juifs et ils se mettent ensemble, il y a le nom d'Hachem. C'est le nom d'Hachem. Et c'est pour ça que quand il y a deux vers comme ça, le deux vers représente le deux Yud. Et c'est pour ça qu'ils coignent le deux vers pour dire, voilà, on est en train d'associer le nom d'Hachem dans la mitzvah de l'Echaim. Quand il dit l'Echaim, c'est comme ça qu'ils font. Comment? Le chin-chin, c'est pas bon, non? Bon. Et maintenant, quand on regarde un peu quand ils ont commencé la construction, vous allez voir sur tous les ustensiles, c'est écrit, l'ordre était à Moshe Rabbeinu. Tu feras. Tu feras la table en or. Tu feras l'autel en cuivre. Tu feras l'ustensile de telle manière. Le pot des animaux, tu les placeras de telle manière. Il y a un ustensile qui est différent de tous. C'est le l'arche sainte. L'arche sainte. L'arche. C'est ça? En quoi? Là-bas, c'est écrit « vous ferez » en pluriel. Qui veut dire quoi? Pourquoi la Torah a changé? Disent Chachamim, ils ont changé là-bas. Pourquoi? Pour nous dire que la Torah n'a pas de propriétaire. Tout le monde peut venir joindre la Torah, il n'y a pas de propriétaire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, moi je suis le propriétaire de la Torah. Alors je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Une fois, le Hafetz Chaim, il a construit sa yeshiva. Une yeshiva qui a contenu 1000 élèves. Une grande yeshiva, une grande bâtisse. Il y a beaucoup à mettre dedans. Un jour, il y a quelqu'un qui vient chez lui, il lui tape sur la porte, il dit, Rav, je vais vous faire une donation. Il dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous donne un chèque pour couvrir toute la construction de cette bâtisse. Tout ce que ça coûte et tout l'ameublement. Combien ça coûte? 1 million de dollars, je vous donne 1 million. 2 millions, je vous donne. Tout ce que vous me dites, je vous donne. Le Chaim lui a dit, je vous remercie, mais je refuse. Je ne peux pas l'accepter. Il dit, pourquoi? Au lieu que vous allez commencer à tourner maintenant dans le ville, dans des pays, aller ramasser pour couvrir le coût de cette bâtisse, je vous donne tout ce que ça coûte. Le Hafetz Chaim me dit, regardez, dans la Torah, quand on a construit le sanctuaire, tous les ustensiles sont écrits, tu feras. L'ordre a été à Moshe Rabbeinu. Quand on est arrivé à l'Arche Sainte, c'est écrit, vous ferez. Qui veut dire qu'on ne peut pas avoir un donateur. Il faut avoir plusieurs. Vous, en plusieurs, il dit, je ne peux pas le donner à la Torah entre la main d'un donateur. Pourquoi? Aujourd'hui, tu donnes 1 million de dollars, 2 millions de dollars. Demain, tu vas venir. Ah, j'aime pas la parochette. C'est bleu. Change-la en rouge. Et j'aime pas la porte. Il faut la faire. Tu vas commencer à devenir propriétaire ici. Tu vas me dire quoi faire. Et la Torah n'a pas de propriétaire. La Torah, c'est pour tout le monde. Alors, il a refusé. Il a refusé. Il dit, faites la donation que vous voulez, mais je refuse que vous payiez le tout. La Torah, il faut que tout le monde se mette ensemble. Et c'est pour ça que à propos de cela, c'est écrit « vous ferez ». Maintenant, il y a un autre ustensile qui était, c'est pas un ustensile, c'est un objet plutôt qui est intéressant dans la paracha. Quand ils ont construit le Mishkan, c'était des poteaux. C'était des poteaux larges, une coudée et demie par poteau, 20 poteaux comme ça. Il y avait 20 du côté nord, 20 du côté sud, 8 du côté ouest. Et il y avait 3 du côté pour mettre comme un rideau du côté est. Maintenant, pour qu'il tienne, il faut avoir des socles en argent en bas qui tenaient ce poteau-là. Pour tenir, pour que tout s'y soit droit et il se décolle pas, il fallait faire des barres en bois. Alors il y avait 5 barres. Du côté nord, il y avait 2. Du côté sud, il y avait 2. Mais il y avait une barre qui faisait le tour de tout le temple, de tout le sanctuaire. Comment? À l'intérieur, ça veut dire si on prenait la taille du poteau, on faisait un trou au milieu du poteau. Et on perçait tout le poteau comme ça. Il y avait une barre qui rentrait dans un côté, elle faisait tout le tour, elle barrait tout. C'est ça? Mais d'abord, c'est en bois, comment ça peut faire le tour? C'est-à-dire, comment tu peux faire avec une barre en bois et puis aller d'un sens? Mais comment il va tourner à droite et après tourner encore à droite pour barrer tout le... C'était un miracle. Et cette barre-là faisait 35 mètres. 70 coudées. Elle faisait 35 mètres. D'où est-ce que tu peux avoir un bois de 35 mètres? C'est énorme, 35 mètres. Ça, ça faisait exactement le tour de tout le Mishkan. Mais où tu trouvais ça? Dit le Targum Yonatan, le commentaire de Yonatan, la traduction Yonatan dans la paracha, il dit, ça c'était un bois spécial qu'ils ont trouvé à la traversée de la mer Rouge. Quand les Juifs ont traversé la mer, il y avait des anges qui sont partis à l'endroit où il habitait Avraham Avinu. Ils ont coupé l'arbre avec lequel Avraham faisait du chesed. Avraham, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait rentrer des gens chez lui. Il avait Echel, il avait un arbre qui s'appelait Echel. Et ce échelle-là représentait 3 choses. Achila, Shtia, Lena. Manger, boire, dormir. Cet arbre représentait, il s'appelait échelle. L'arbre s'appelait échelle. Et le échelle représentait aussi 3 choses qu'il faisait Abraham. Il faisait rentrer le gens pour manger, pour boire et aussi pour dormir s'il fallait. Et des fois, il faisait aussi avec le lamed, l'évaya. Il les a accompagnés quand ils sont sortis de chez lui. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ils sont partis couper, les anges sont partis couper. Ils l'ont jeté dans la mer, ils ont dit aux Juifs, ramassez ce bois, vous l'aurez besoin à un certain temps. Quand ils l'auraient besoin, quand ils ont construit le Mishkan, il était 35 mètres long, cet arbre. Et il leur a dit, Akash Baruchou, maintenant ça va être la barre du mieux qui va faire le tour en entier. C'est un miracle. parce qu'une barre en bois ne pas se plier. Mais il faisait rentrer la barre, et toute seule, elle allait rentrer dans tout le poteau, elle faisait le tour. Et quand il fallait démonter le Mishkan, toute seule, elle s'est enlevée et s'est mise encore droite comme un poteau, et ils l'ont transporté comme ça. Maintenant, ça c'était un miracle qui les a accompagnés dans le désert. Je pensais une fois, pourquoi parler, pourquoi cette idée de couper l'arbre d'Avraham, c'est pas une allégorie, c'est un midrash, mais qu'est-ce que nous enseigne le midrash qu'il a coupé l'arbre d'Avraham Avinu? S'il y avait un arbre de 35 mètres, peut-être il y avait des autres. C'est sûr qu'il y avait deux autres arbres. Par exemple, la Teva de Noir. La Teva de Noir. Elle était longue 300 coudées, 150 mètres. Où tu vas trouver un poteau de 150 mètres? Ça veut dire qu'il y avait de longs bois. Il y avait de longs bois. Alors ici, on parle d'un bois de 35 mètres. C'est beaucoup plus petit que 150 mètres. Mais pourquoi rien que l'arbre d'Avraham Avinu? Alors là, si on peut expliquer, le monde, dans le Maxime des Pères, c'est écrit, le monde tient sur trois piliers. À la Torah, à la Avodah, à Gnout Hassadim. Sur le pilier de la Torah, sur le service de sacrifice, et sur Gnout Hassadim, la bienfaisance et les bontés que les gens se font entre eux. Et ça c'est trois piliers sur lesquels le monde se repose. Maintenant, Akosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, sache que c'est vrai que le monde se repose sur le trois, mais à la fin de temps, il se reposera sur un seul, Gnout Hassadim. C'est ça, c'est pour ça que vous allez voir, quand vous faites la Amida, Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Mais comment on conclut? Baruch Ata Hashem Magen Avraham. On n'a pas dit Magen Avraham, Yitzhak et Yaakov, on a dit Magen Avraham. Pourquoi? Parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov, chacun de patriarches représentait un pilier. Avraham représentait le chesed, la bonté. Yitzhak représentait le sacrifice. Il s'est donné comme sacrifice sur l'autel d'Hachem. Et Yaakov représentait la Torah. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim, il s'est assis dans le temple de la Torah. Dit Akosh Bokho Avraham, c'est vrai. Le monde doit se reposer sur le trois. Torah, c'est très important. Sacrifice, c'est très important. Et chesed, c'est très important. On a besoin de tous les trois. Mais aujourd'hui, dans notre époque, est-ce qu'on a le temple? Ça veut dire qu'on déjà on manque un pilier. La Torah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Torah. Mais est-ce qu'il y a autant de Torah comme ça doit l'être? Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas la Torah. Alors, sur quoi repose le monde aujourd'hui? Sur un pilier, le chesed. Et ce chesed, il est capable de maintenir tout le monde malgré qu'il doit être supporté sur trois piliers. C'est pour ça qu'on dit que la Torah, elle commence par la première mitzvah de la Torah, c'est la bonté. Et la dernière, c'est la bonté, chesed. Ou Bereshit. Dans Bereshit, on lit l'histoire de Adam et Chava qu'ils ont désobéi Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé de l'arbre, du fruit interdit. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait chesed. À la première paracha, ils étaient nus. Et pour se couvrir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont cosus de feuilles de figuier. Mais ce n'est pas un habit. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Malgré qu'ils ont fauté, il est parti leur faire des habits. Dévêtir quelqu'un, c'est du chesed. Vaït por lahem, vaïas lahem, kutnot or. Il leur a fait des tuniques en cuir. Alors Hachem a fait une grande bonté avec le. Ça, c'est dans la paracha de Bereshit. La dernière paracha de la Torah, c'est quoi? Vezot abracha. Qu'est-ce qu'on va lire à la Zot Abracha? Le décès de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qui s'est écrit à la fin de cette paracha? Vaikbor oto bagay. Hachem l'a enterré dans le gai, dans la vallée, là-bas. Enterrer quelqu'un, c'est la plus grande mitzvah qu'on peut avoir dans le chesed. Du Lagmara, la Torah commence par cette mitzvah de chesed et elle termine par cette mitzvah. Ça veut dire que même la Torah est reposée sur cette mitzvah. Le chesed, c'est elle qui repose la mitzvah. Avec ça, on peut expliquer un autre passage de Gemara. Dans la Gemara, c'est écrit quand ils ont pris le 10 martyrs. Ils ont attrapé le 10 martyrs. Un des 10 martyrs, c'était Rabbi Hanania ben Teradion. Rabbi Hanania ben Teradion, il a été attrapé, enseigner la Torah en public. Les Romains, ils ont interdit l'enseignement de la Torah en public. Alors, ils l'ont attrapé, ils l'ont puni. Au même temps qu'ils l'ont attrapé à lui, ils ont attrapé un autre rave. Rabbi Hanania ben Parta. Les deux, ils étaient en prison. Et Rabbi Hanania ben Parta, il dit à Rabbi Hanania ben Teradion, il dit, tu sais, moi, on m'accuse de 5 choses. Toi, on t'accuse d'une chose. Et Rabbi Tafon qui lui répond, non. Toi, on t'accuse de 5 choses, mais tu vas sortir vivant. Moi, on m'accuse d'une chose, mais je ne vais pas sortir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que la Gemara dit, si tu apprends que de la Torah, ça ne vaut rien. À part l'étude de la Torah, il faut faire du chesed. Il faut aider aux gens. il faut donner un tzedaka, il faut aider à quelqu'un qui a besoin de l'aide. Rien qu'étudier seul comme ça, ça ne donne, c'est pas le but. Le but, c'est étudier et aider. Alors il lui dit, Rabbi Chaim ben Taradion, moi je n'ai pas pu aider aux gens. Tout ce que je pouvais, c'est enseigner la Torah. Je n'avais pas l'occasion de sortir et aider aux gens qui avaient besoin de l'aide. Tandis que toi, tu as été attrapé sur 5 choses. Mais c'est vrai, tu as étudié la Torah, mais aussi tu as aidé beaucoup de gens. Tu vas être libéré. C'était comme ça. Ben Parta, le Rav Ben Parta, il a été libéré. Rabbi Chaim ben Taradion était un des 10 martyrs, il a été attrapé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le livre avec lequel ils l'ont attrapé en train d'enseigner, ils l'ont roulé avec, sur lui, sur son corps, et ils l'ont brûlé avec. C'est ça? Maintenant, ils ont mis du coton, de bulles de coton sur son cœur, et ils étaient trempés d'eau. Et le coton, quand il est trempé d'eau, il n'attrape pas de feu. Alors pourquoi? Pour le faire souffrir. C'est ça? Alors ses élèves, quand il était en train de brûler, ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu es en train de voir? Alors il a dit, je suis en train de voir que tous les lettres de cette Torah, ils sont en train de monter au ciel. Ils montent au ciel. Ils montent au ciel. Tout ce qui est resté, c'est rien que de parchemin vide. Alors, et comme ça, après le bourreau qui était là-bas, c'était un non-juif, il lui a posé la question, si je t'enlève le coton de ton cœur et tu vas brûler et mourir pendant tout de suite, sans souffrir, est-ce que tu vas m'emmener à l'autre monde? Il a dit, oui, je te promets à l'autre de t'emmener à l'autre monde. Alors le bourreau, il a enlevé le coton. Rabbi Chaim ben Taradion, il l'a brûlé. Il est mort tout sur place. Et le bourreau a sauté dans le feu. Il y avait une voix céleste qui est sortie. Il a dit, Rabbi Chaim ben Taradion et le bourreau, les deux vont à l'autre monde. Olam Haba. Je pensais un peu expliquer qu'est-ce que c'est cette image qu'il a dit à ses élèves. Je vois des lettres de la Torah qui sont en train de monter au ciel. Ils s'envolent du parchemin. Alors si on peut expliquer, on a dit que la Torah, elle commence par Chesed, elle termine par Chesed. Ça veut dire que c'est comme la barre médiane du temple, elle tenait tout le poteau en place. Cette barre qu'on mettait dans le Mishkan, elle tenait tout le poteau qui reste à leur place, qui ne se déplace pas. La même chose, la Torah est tenue par le Chesed. Et Rabbi Chaim ben Taradion, comme il n'avait pas l'occasion de faire le chesed, parce qu'il était en train de rien que d'étudier, comme il a dit, oh Ben Parta, moi je ne sortirai pas parce que je fais que de l'étude de la Torah sans chesed, il a vu de l'aide de la Torah s'envoler. Pourquoi s'envoler? Parce qu'elle ne tenait plus. Pourquoi elle ne tenait pas? Qu'est-ce qui tient le lettre de la Torah sur la Torah? C'est le chesed. Le lettre de la Torah peut être sur le parchemin tant qu'il y a du chesed. Une fois qu'il n'y a pas de chesed, elle s'envole. Elle s'envole. Et elles vont faire d'autres recettes. C'est quoi l'autre recette? Elles écrivent, elles se reposent sur deux autres parchemins et elles espèrent aussi que la Torah va être étudiée avec recettes. Pour dire que la mitzvah des recettes est très importante et c'est ça qui tenait tout le Mishkan. Je voulais vous donner des petits exemples de recettes. Par exemple, j'ai vu une histoire, il y avait, qu'est-ce que c'est recettes? Chesed, c'est aider à l'autre, mais sans intérêt. Comme on a commencé la paracha. Vikhuli lishmi, vous allez construire vos donations en mon nom. Qui veut dire sans intérêt. Alors, des fois, on veut aider quelqu'un, mais on a un intérêt. Par exemple, ils disent, il y a des gens qui donnent la tzedaka. Il y a trois types, trois niveaux de personnes. Il y a une personne qui donne la tzedaka sans intérêt. Il donne parce que Hachem a dit. Il y a une autre qui donne, pourquoi? Parce que ça lui fait mal au cœur de ne pas donner. C'est pas qu'il veut donner. Il ne peut pas voir quelqu'un qui est pauvre. Alors, c'est sa nature. Mais c'est pas la volonté d'Hachem. Ce n'est pas à cause de ça qu'il fait. C'est à cause que sa nature ne le laisse pas. Il y a quelqu'un qu'il faut lui forcer pour donner la tzedaka. Lui, il veut pas. Mais si tu lui forces pas, si tu lui forces, il va donner. Et tous les trois, ils sont mentionnés dans la paracha, comme il est écrit, « Vikru li truma rachidi li lishmi ». C'est le premier groupe qui fait le Shem Shamaim. Après, il dit à Ish, Kol Ish, Shakom, Asher, Ideven, Olibo, que son cœur désire. Ça veut dire qu'il y a un désir du cœur sans qu'il lui veut. C'est rien que le cœur qui lui exige de le donner. Et après, Tikru, vous allez prendre à force. Vous allez prendre ma donation. Qui veut dire que quand on fait du chesed, en vérité, le chesed doit être à 100% sans intérêt. Des fois, tu aides à quelqu'un, mais tu attends qu'il t'aide aussi. J'ai vu qu'ils ont fait, dans une yeshiva, ils ont fait un groupe de chesed. C'est quoi le groupe de chesed? Le groupe de chesed, c'était 10 personnes qui sont ramassées. Ils ont dit, on va céder un à l'autre. On cède un à l'autre. Ils sont partis demander à un grand rabbin, est-ce que c'était bien de faire ça? Le rabbin a dit, nounou. Hein, c'est une autre chose, mais c'est... On dit que ça veut dire nounou. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... Il dit, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire ça, faire un groupe de chesed? Un groupe de chesed, ça veut dire que vous avez choisi 10 personnes et vous allez vous aider entre vous. Ça veut dire rien que celui qui fait partie du groupe, il va être aidé. Mais s'il y a quelqu'un de dehors qui vient, vous ne le considérez pas. Alors on ne peut pas faire un groupe de chesed. Chesed, c'est pour tout le monde, sans exception. On ne peut pas faire un groupe. Si tu fais un groupe, tu exclus tout le monde. Alors il leur a dit, enlevez ce groupe parce que ce n'est pas bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Le chesed se fait avec tout le monde. Il n'y a pas de groupe de chesed. On aide. On peut faire une institution de chesed. Mais on ne s'aide pas entre nous. On fait pour aider aux autres. Alors j'ai vu une autre histoire aussi qui est belle. Il y avait un juif à l'époque, il n'y avait pas de lumière. Alors il y avait beaucoup qu'ils avaient des lanternes dans laquelle ils mettaient une bougie et c'est la bougie durait. Maintenant Shabbat, il fallait mettre une grande bougie pour que ça dure un peu plus de temps. Il y avait des gens qui aimaient, il y a des gens qui se réveillent au milieu de la nuit. Alors ils aiment se réveiller, étudier quelque chose. Alors ils laissent toujours une lumière pour étudier. À l'époque, quand quelqu'un savait qu'il s'est réveillé au milieu de la nuit pour étudier, il laissait une bougie plus grande. Comme ça, il se réveillait au milieu de la nuit, il lisait, et après il dormait, le lendemain, il y avait déjà de la lumière. Il y a un Shabbat, il y a quelqu'un, il a oublié d'allumer la lumière, d'allumer la bougie. Il se réveille au milieu de la nuit, obscur, noir, il ne peut rien lire. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas aller dormir, et je vais lire. Qu'est-ce que je vais faire? Il a une idée. Il a un voisin non-juif. Alors lui, il peut allumer, c'est ça? Alors, mais la halakha dit, tu ne peux pas dire à un goy de faire quelque chose pour toi, c'est ça? Alors il a une idée. Si le goy le fait pour son intérêt, c'est permis de lui dire d'allumer la lumière. Alors il va chez son voisin, 2h, 3h du matin, il tape sur la porte. L'autre dit, qui c'est ton voisin? Il ouvre la porte. Qu'est-ce que tu viens ici, 2h, 3h du matin? Il dit, écoute, j'ai acheté une vodka extraordinaire. Est-ce que tu veux la goûter? En Russie, une vodka. Il dit, bien sûr. Alors l'autre, il ne pense pas deux fois, il s'habille, il vient chez lui. Il rentre chez le voisin juif. Il voit tout obscur, il dit, mais je ne peux rien voir ici. Comment je peux voir pour boire la vodka? Il dit, alors allumez la lumière. Si vous voulez, allumez la lumière. Alors il est parti, il a allumé. Il lui a donné un verre. Il dit, vraiment, ça valait la peine de se réveiller à 2h du matin pour boire cette vodka. Il dit, tu veux un autre verre? Il dit, oui. Il lui donne un autre verre. Tu veux un autre? Il lui donne... Il dit, ça y est. L'autre, le gars, il dit, ça y est, je vais retourner à dormir. Alors avant qu'il sorte, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la lumière. Il éteint, il sort. Alors l'autre est resté sans. Alors pourquoi il a allumé la lumière? Pour son intérêt. Tant qu'il voulait boire, il avait besoin de la lumière. Il a laissé, mais une fois qu'il a terminé, il a éteint. C'est pour ça qu'on dit le chesed, c'est pas quand on a besoin, alors on aide. Et on n'a pas besoin, on n'aide pas. Chesed, c'est en tout moment. Il n'y a pas un moment qu'on est dans... Le chesed, c'est pour faire toujours, parce que si tu fais rien, ça veut dire que ça devient quelque chose d'impersonnel. Et la Torah dit... L'ilishmi, sans intérêt, vous le ferez. Pour dire, voilà, ça c'est une des leçons de Mishkan, qu'en vérité, ce Mishkan-là, ce sanctuaire qu'on va construire dans le désert, en vérité, Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin. Et c'était pas son. La pensée initiale, c'était même pas d'avoir un sanctuaire. Pourquoi? Veshachanti betocham. Le sanctuaire se trouve dans le cœur de chaque juif. Ça c'est le vrai sanctuaire. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'une bâtisse, parce que ça limite. Akadosh Baruch Hu n'aime pas qu'on le limite. Une bâtisse, ça limite Hachem. Tu lui dis, voilà, ça c'est la limitation. Hachem, pourquoi faire? Je résiderai dans le cœur de chacun. Mais après la faute du Vaudor, c'est ça, malheureusement, après cette faute grave, Akadosh Baruch Hu dit, bon, alors dans ce cas, je construirai une bâtisse et je résiderai dans cette bâtisse. Je prendrai ma Shekhina et je la limiterai dans cette bâtisse. Mais aujourd'hui qu'on n'a plus cette bâtisse, on n'a plus de sanctuaire. Veshachanti betocham. C'est retourner au but initial. C'est quoi le but initial? C'est que Akadosh Baruch Hu réside dans le cœur de chacun. Mais le cœur, on dit, doit être net. Et comment on peut en être? Comme on a expliqué. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on imprègne le nom d'Hachem sur l'objet. Sur notre cœur aussi. On doit imprégner le nom d'Hachem. Ça veut dire qu'on doit associer le nom d'Hachem chaque fois qu'on fait une mitzvah. Alors, l'organe avec lequel on fait, il est imprégné par le nom d'Hachem. Si c'est la main, si c'est le pied, la tête, n'importe quoi. Mais aussi le cœur. Si on le fait avec bonne intention, le cœur aussi est gravé avec le nom d'Hachem. Et c'est ça que le but que chaque juif doit avoir sur son cœur. Il faut avoir le nom d'Hachem, Yud Kei Vav Kei, qui est gravé pour que Hachem réside, Betocham, dans son cœur. C'est là-bas qu'Hachem résidera. Et la meilleure mitzvah pour la faire, pour accomplir cette mitzvah, c'est le Chesed. Si on fait, on court après Chesed. Alors, le Chafetz Chaim expliquait une fois, on dit dans le psaume 23, « Ach tov v'chesed irdefuni kolem echayay ». Ça veut dire, si on traduit, Ach Tov Achesed, que de la bonté, Tov, de bonnes choses et la bonté, Irdefuni, ils vont me poursuivre toute ma vie. Poursuivre, ce n'est pas un bon mot. quand tu poursuis quelqu'un, c'est pour le tuer, pour le faire quelque chose du mal. Il ne fallait pas dire poursuivre. Et ça, Artov Achesed, Yuhimi, ils seront avec moi, mais pas poursuivre, ils ne vont pas me poursuivre. Et le Hafetz Chaim expliquait ce verset-là. Il y avait une fois quelqu'un qui est venu recevoir un conseil du Hafetz Chaim. C'est quoi le conseil? Lui, il ramassait de la tzedaka et il l'a distribué. Mais un certain temps, ça lui a dérangé dans son travail. Pourquoi? Parce qu'il fallait au milieu de travail, quitter le travail, aller ramasser de l'argent, parce qu'il fallait parler à quelqu'un et il devrait quitter la ville. Alors avant qu'il quitte la ville, il fallait fermer son magasin pour aller lui parler. Ça lui a dérangé dans son business. Alors il est venu demander conseil à Hafetz Chaim qui ne veut plus être gabbai tzedaka. Il ne veut plus travailler dans ce domaine. Alors il est venu, mais le Hafetz Chaim vient de terminer son repas. Alors le shamash, le serviteur de Hafetz Chaim, lui dit: rentre, assis-toi. Le Rav, il va faire Birkat Amazon. Et après, tu peux lui poser ta question. Alors, eux, ils avaient le coutume de chanter le psaume 23. Le psaume 23 avant de faire Birkat Amazon. Alors, en fait, ils ont chanté Mizmor le David, Hashem Roy lo Irsar, Bino de Sharbitseni. Et il arrivait à ce passage, Artov Achesed, le dernier verset. Artov Achesed, de Funukom Echayai. Le Hafetz Chaim se tournait vers l'invité. Et le Hafetz Chaim ne savait pas pourquoi il est venu, lui. Bon, il est venu pour une question, mais il ne savait pas c'est quoi sa question. Le Hafetz Chaim s'est tourné vers l'invité et lui dit: tu sais, je viens de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Artov Achesed, la bonté me poursuivra toute ma vie. La bonté ne poursuit personne. C'est toi qui dois poursuivre, c'est toi qui dois courir après, et courira après toi, mais pas poursuivra. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit: tu sais, quand on veut faire du Chesed, des fois on est dérangé. Parce que des fois c'est au milieu du travail. Des fois, tu manges et tu dois sortir. Le chesed, des fois, ça dérange. Ça poursuit la personne, le chesed. Ça ne vient pas à son convenient. Ça veut dire, si c'est convenient pour toi, c'est plus le chesed. Le chesed, il doit te déranger. Et ça te poursuit. Il dit, mais quand même, qu'est-ce que David a prié? Kolé mechayai. J'espère que le chesed me poursuit toute ma vie. Comme ça, David Amir disait. Et le Hafetz Chaim disait, maintenant, je fais Birkat Amazon. Le Hafetz Chaim commençait Birkat Amazon et l'autre homme, il s'est levé, il est parti. Le chamash lui dit: mais attends, tu n'as pas posé la question. Il dit: j'ai pas besoin. Ça, il m'a répondu. Il m'a répondu. Sans que je lui pose la question, il m'a répondu. Qui veut dire: le chesed ne se fait pas quand ça me convient. Le chesed se fait toujours. Si des fois, quelqu'un vous réveille à 2h du matin, j'ai une panne. Ah, pourquoi tu me réveilles maintenant? Oh, chesed sur chesed. Tu le fais toujours, tu penses pas deux fois. Ça dérange deux fois. Un vendredi, quelqu'un a besoin de l'aide. Mais ce vendredi, comment je fais? Le chesed se fait toujours, et c'est ça le message de la paracha. Hachem, lilishmi, faites-le en mon nom. Et vous allez voir que sur votre cœur, il y aura le nom d'Hachem qui va être gravé en grand pour marquer cela.